prochaine.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, au sommaire de cette édition du mercredi 8 février 2023. Décryptage du discours sur l'état de l'Union prononcé par le président Joe Biden.
Et j'étais très positif, l'Amérique peut gagner, va gagner, on est un peuple compétent, et il voit un avenir plein de trucs fabuleux, à mon avis.
L'avocat Denis Beaver, avocat et républicain, nous dira comment il a perçu le discours du président américain. Le tremblement de terre en Turquie et en Syrie a fait déjà près de 12 000 morts et les recherches continuent. Au Nigeria, la commission électorale affirme que la présidentielle aura bien lieu en dépit des pénuries de carburant et de billets de banque. À suivre également dans cette session d'information, le sport, le basketteur LeBron James devient meilleur marqueur de tous les temps de la NBA. Bonsoir, bienvenue. On commence par le journal. S'exprimant devant un congrès divisé pour la première fois depuis son entrée en fonction, le président américain Joe Biden a prononcé son deuxième discours sur l'état de l'Union mardi soir. Il a vanté le faible taux de chômage et la fin de l'état d'urgence lié à la pandémie de COVID-19, tout en plaidant en faveur du bipartisme face à une chambre des représentants contrôlée par les républicains. Compte rendu de Patsy Ouidaskouara, chef du bureau de la VO à la Maison-Blanche, le récit est de Jacques Aristide.
Monsieur le Président de la Chambre des représentants, le Président des États-Unis.
Devant les deux chambres réunies du Congrès, le locataire de la Maison-Blanche a mis en exergue à son programme axé sur l'unité.
Monsieur le Président de la Chambre, je ne veux pas ruiner votre réputation, mais j'ai hâte de travailler avec vous.
Le président Biden s'est félicité de la remontée de l'industrie manufacturière américaine, encouragée par des législations qui promeuvent notamment des investissements dans la production d'énergie renouvelable, des semi-conducteurs et dans les infrastructures afin de concurrencer la Chine.
Avant, nous étions numéro un dans le monde des infrastructures. Nous sommes tombés au 13e rang mondial, les États-Unis d'Amérique. Au 13e rang mondial pour les infrastructures modernes. Mais nous faisons notre retour parce que nous sommes unis et avons adopté la loi bipartisane sur les infrastructures.
Abordant l'inflation élevée, Joe Biden a déclaré que le problème est mondial, causé par la pandémie de COVID-19 et la guerre menée par la Russie en Ukraine. Il a souligné le faible taux de chômage.
Nous avons créé un record de 12 millions de nouveaux emplois. Plus d'emplois créés en 2 ans qu'aucun président n'en a jamais créé en 4 ans.
Il a fait valoir les mesures prises par son administration pour effacer la dette fédérale des prêts étudiants, pour augmenter le nombre d'Américains ayant une assurance santé, pour mettre en œuvre des programmes d'aide face au Covid et pour réduire le coût des médicaments d'ordonnance. C'est la gouverneure de l'Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, ancienne porte-parole de la Maison-Blanche sous Donald Trump, que le parti républicain a choisi pour livrer la réplique à Joe Biden.
Dans l'Amérique de la gauche radicale, Washington vous taxe et met le feu à votre argent durement gagné. Mais vous êtes écrasé par les prix élevés de l'essence, les rayons vides des épiceries, et on apprend à nos enfants à se haïr en raison de leur ethnie, mais pas à s'aimer ou à aimer notre grand pays.
Le républicain Kevin McCarthy, nouveau président de la Chambre des représentants, a promis une série d'enquêtes touchant notamment les documents confidentiels trouvés au domicile de Joe Biden, les milliards de dollars d'aide à l'Ukraine et la réponse qualifiée de faible du président au ballon espion chinois récemment abattu après avoir survolé le territoire américain. Parmi les invités, Oksana Markarova, l'ambassadrice d'Ukraine à Washington, et les parents de Tyree Nichols, le jeune Africain-Américain battu par des policiers du Tennessee et qui est mort quelques jours plus tard.
Lorsque des policiers ou des services violent la confiance du public, ils doivent en être tenus responsables.
Après les récentes fusillades en Californie, le président Biden a de nouveau appelé le Congrès à interdire les fusils d'assaut. Il a exhorté les républicains à proposer une réforme de l'immigration, des propositions de réduction de la dette et s'est engagé à protéger les droits reproductifs.
Ne fais pas d'erreur. Si le Congrès adopte une interdiction nationale de l'avortement, j'y opposerai mon veto.
Dans quelques mois, le président Biden devra faire face aux républicains qui réclament des réductions de dépenses avant d'accepter d'adopter une hausse du plafond de la dette pour éviter le défaut de paiement.
Si l'exercice du discours sur l'état de l'Union est généralement rythmé par les ovations du parti présidentiel, le démocrate de 80 ans a dû cette fois composer avec les invectives de certains parlementaires républicains. Eric Maniarakiza a joint Dennis Beaver, avocat de formation et républicain, qui avait voté pour Donald Trump.
Très positif, c'est le Joe Biden qu'on aime, et moi je ne suis pas démocrate, je suis un indépendant, mais il était très positif, l'Amérique peut gagner, va gagner, on est un peuple compétent, et il voit un avenir plein de trucs fabuleux à mon avis. C'est ce que je ressens, ce que j'ai ressenti pendant son discours. Très, très, très positif, exactement ce dont on a besoin.
Est-ce que, selon vous, il a répondu aux préoccupations des Américains, parce que c'est un président impopulaire actuellement?
Partiellement, oui, partiellement. Il ne peut pas couvrir tous les sujets, évidemment. Son discours a été une façon d'encourager les Américains de voir un avenir plein de trucs positifs, plein de succès pour les individus, pour le pays. Mais évidemment, il ne peut pas tout couvrir, ce n'est pas possible.
Qu'est-ce qui a manqué dans son discours, selon vous?
Malheureusement, il n'a pas vraiment touché la Chine ou l'Ukraine, pas suffisamment. Ça, j'ai été un peu déçu, même beaucoup déçu.
Qu'est-ce que vous vouliez qu'il dise sur la Chine, par exemple?
Ah, il aurait dû discuter de leur ballon, le truc, hein. Ils ont menti carrément, non, c'est juste pour la météo, chose comme ça. Mon œil, hein. Il a dû, à mon avis, discuter le fait que ce sont des moments dangereux dans le monde. On a Poutine, qui est dangereux comme tout, un président en Chine, qui se voit comme le roi du monde.
Mais sur la Chine, il a dit quand même qu'il va toujours défendre la souveraineté des États-Unis face à la Chine.
Oui, ce qu'il a dit, que moi j'ai beaucoup aimé, et je pense que pas mal de gens aussi, que l'Amérique va produire les choses dont on a besoin ici, dans le pays.
Dennis Beaver, avocat à Bakersfield, en Californie. Le président Biden a appelé à l'unité et au dialogue avec les républicains, mais avec des conservateurs qui contrôlent la Chambre des représentants, il pourrait être difficile de trouver des points de convergence sur des questions comme l'avortement, la réforme de la police et la hausse des taxes pour les riches. Abdourahman Dia a joint à Rabat l'analyse politique Calvin Dark.
Ce que nous avons vu hier soir, c'est le Joe Biden que nous n'avons pas vu autant que je l'aurais souhaité au cours de les premières années de son mandat. Il avait de l'énergie. Et ses meilleurs moments, c'était quand il s'est écarté du script et a parlé directement aux républicains.
Mais est-ce que vous avez l'impression que dans son discours, en fait, qu'il s'agissait plutôt d'un discours de pré-campagne, même s'il n'a pas encore dit s'il allait se représenter en 2024?
Oui, on ne sait pas exactement s'il va briguer un autre mandat, mais c'était clair que son défi majeur, c'était comment vanter des victoires législatives et des progrès économiques qu'il a menés depuis ces dernières deux années, sans paraître déconnecté des Américains parce qu'ils ne ressentent pas ce progrès dans leur vie quotidienne. Je crois qu'il a bien fait pour décrire ce qu'il a fait pour l'économie, pour le pays d'avancer, mais ça reste à voir si les Américains ont bien reçu ce message et si dans l'avenir, ils vont ressentir un peu mieux ce que Biden a fait, les lois et les choses qu'il a mis en place.
Alors, dans son discours, il a beaucoup insisté sur le bipartisme et le dialogue avec les républicains. Mais comment est-ce qu'il peut s'y prendre avec des sujets comme l'avortement, la réforme de la police, les taxes pour les riches, qui sont des sujets assez un peu, disons, de divergence avec les Républicains.
Oui, malheureusement, une collaboration, une vraie collaboration entre les démocrates et les républicains, ça n'est pas possible avant 2024. Mais il y a beaucoup de choses que Biden peut faire, mais de l'ordre exécutif, de son pouvoir exécutif. Je crois que Biden a fait un très bon argument pour les choses comme la réforme de la police.
Oui, et il a quand même évoqué un peu la politique étrangère, l'Ukraine et la Chine. Pour vous, c'était un peu pour rassurer une audience nationale, un public national sur ces questions-là? Comment vous trouvez ces approches sur ces deux questions, la Chine surtout?
Oui, surtout après la situation avec le ballon d'espions des Chinois, il a dû vraiment communiquer le message, convaincre le peuple américain qu'il y a une stratégie pour nous protéger, non seulement de notre situation économique qui est très liée avec la Chine, mais aussi notre situation sécuritaire.
C'était l'analyste politique Calvin Dark.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les sauveteurs travaillent par un froid glacial depuis deux jours après le tremblement de terre d'une magnitude de 7,8 qui a secoué lundi le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie. Le bilan dépasse 11 700 morts avec près de 50 000 blessés en Turquie et 5 000 en Syrie. La Turquie déplore au moins 9 057 morts et en Syrie 2 662 corps ont été retirés des décombres. Les détails avec Nathalie Barge.
Des dizaines de pays ont proposé leur aide à Ankara, dont les États-Unis, la Chine, des pays européens et du Golfe. Le président Recep Tayyip Erdogan s'est rendu à Kahramanmaras, épicentre du séisme. Dans la province de Hatay, dans le sud de la Turquie, des enfants ont été secourus des décombres d'un immeuble. La ville d'Antakya est à terre, noyée dans un épais nuage de poussière dû aux engins de déblaiement. À perte de vue, des immeubles effondrés ou partiellement écroulés. À Kahramanmaras, aucun secours n'est parvenu dans cette ville de plus d'un million d'habitants, dévastée et ensevelie sous la neige. Selon un habitant, des enfants sont morts de froid. La Syrie, également touchée par le séisme, a sollicité l'aide de l'Union européenne, qui a alors encouragé ses États membres à soutenir ce pays en guerre, frappé par des sanctions internationales depuis 2011. À Alep, 42 personnes ont été sauvées par des militaires russes, dont plus de 300 participent au secours selon l'armée russe. Dans les zones rebelles, les casques blancs ont imploré la communauté internationale d'envoyer de l'aide. Des gens meurent toutes les secondes sous les décombres, a déclaré leur porte-parole, Mohamed El-Chebli. Selon un habitant de Genderis, environ 400 personnes sont piégées sous chaque immeuble effondré, avec seulement une dizaine de personnes qui tentent de les sortir des décombres sans aucun équipement.
L'actualité africaine, la commission électorale au Nigeria a assuré aujourd'hui que l'élection sera bien organisée, comme prévu le 25 février, malgré les pénuries massives d'essence et de nouveaux billets de banque qui paralysent le pays. À moins de trois semaines du scrutin, les files d'attente continuent de s'allonger devant les distributeurs en manque de billets, les stations d'essence dépourvues de carburant, plongeant les habitants dans la détresse. Plusieurs émeutes ont éclaté, notamment mardi à Abeokuta dans le sud-ouest, ainsi que la semaine dernière à Kano, plus grande ville du nord, et à Ibadan, importante ville du sud-ouest. Le président de la commission électorale, Mahmoud Yakubu, a assuré mercredi que la commission a trouvé une solution pour faire face à la pénurie d'essence après avoir rencontré la direction de la compagnie pétrolière nationale. Et puis, une épidémie de méningite plus forte que d'habitude a fait 18 8 morts au Niger depuis novembre, indiqué l'OMS ce mercredi, mettant en garde contre les risques de propagation à la région, l'apparition simultanée d'autres épidémies, l'insécurité et les déplacements de la population, le tout dans le contexte d'une crise humanitaire prolongée, sont susceptibles de contribuer à la propagation de la flambée dans d'autres pays de la sous-région, s'inquiète l'agence onusienne. Jean-Roger Billon ne partait nulle part ailleurs. Dans quelques instants, la suite de cette session d'information.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Le président Joe Biden s'est adressé à un congrès divisé mardi soir dans son discours sur l'état de l'Union. La montée des tensions avec la Chine et la guerre en Ukraine ont été ses principaux thèmes de politique étrangère, comme le rapport de Saint-Dicenne de la VOA, le récit avec Nani Talani.
Lors de ce discours, les tensions avec la Chine ont été un sujet important après qu'un présumé ballon d'espion chinois a attiré l'attention des Américains. Joe Biden a cherché à rassurer les Américains tout en envoyant ce message à la Chine.
Je m'engage à travailler avec la Chine là où elle peut faire avancer les intérêts américains et profiter au monde. Mais ne vous y trompez pas. Comme nous l'avons clairement indiqué la semaine dernière, si la Chine menace notre souveraineté, nous agirons pour protéger notre pays. Et nous l'avons fait.
Samedi, un avion de chasse américain a abattu le ballon chinois au-dessus de l'océan Atlantique, au large de la Caroline du Sud. La Chine a qualifié la réaction des États-Unis d'excessive. Certains républicains ont critiqué Joe Biden pour ne pas avoir ordonné que le ballon soit abattu plus tôt. Ils veulent une position plus dure vis-à-vis de la Chine, a déclaré Michael Kugelman du Wilson Center à VOA.
Donc, il n'a pas adopté pas une position ferme et belliciste. Il a laissé un espace ouvert à la conciliation. Et je ne pense vraiment pas que les membres du Congrès, qui auraient voulu une position plus dure, aient été satisfaits de ce qu'il a dit ce soir.
La guerre de la Russie contre l'Ukraine a également été mentionnée dans le discours de Joe Biden. Les États-Unis ont engagé plus de 27 milliards de dollars en aide à la sécurité à l'Ukraine. Le président américain a déclaré que l'invasion du président russe Vladimir Poutine il y a un an est un test que l'Amérique a réussi.
Nous avons uni l'OTAN et construit une coalition mondiale. Nous sommes opposés à l'agression de Poutine. Nous étions aux côtés du peuple ukrainien. Ce soir, nous sommes à nouveau rejoints par l'ambassadrice d'Ukraine aux États-Unis. Elle représente non seulement sa nation, mais le courage de son peuple.
Certains républicains ont été sceptiques, mais d'autres, dont le président de la Chambre, Kevin McCarthy, ont semblé soutenir les commentaires de Joe Biden. Elizabeth Shackerfall travaille pour le Conseil de Chicago sur les affaires mondiales.
Je dois dire que j'ai vu beaucoup plus de soutien venant du côté républicain quand il parlait de l'Ukraine, en particulier au moment où il a dit « Nous y sommes aussi longtemps qu'il le faudra ». C'est quelque chose que nous avons entendu le Parti républicain repousser spécifiquement en disant qu'il n'y avait pas de chèque en blanc pour l'Ukraine.
Outre la guerre en Ukraine et un pivot vers l'Asie prévu de longue date, le président Joe Biden prévoit la première visite en Afrique subsaharienne d'un président américain depuis 2015.
Le bilan humain des tremblements de terre qui ont frappé la Turquie et la Syrie ne cesse de s'alourdir. Parmi les victimes figurent des Africains dont le nombre reste à déterminer. Nani Talani a joint Rachidi Makassi, un entrepreneur originaire de la RDC installé à Istanbul depuis 10 ans.
En tout cas, ce n'est pas une bonne expérience, bien que nous sommes un peu loin de là où ça s'est passé, parce que c'est à peu près à 11 heures de là où nous sommes. Nous sommes à Istanbul. Mais ça s'est passé dans différentes villes qui sont presque, je peux dire, à 10 heures de là où nous sommes. Donc voilà. Mais ça fait toujours mal parce que, vu que c'est le même pays, c'est presque tous les pays qui est fragilisé. Parlant des Africains, tout à l'heure là, j'ai essayé de contacter le président de l'Union africaine ici. Il n'est pas joignable main. Jusque là, à part, nous avons des joueurs ghanéens qui jouent à Taï Sport, qui est toujours introuvable. Il y a 6 Égyptiens aussi qui sont introuvables. Il y a 2 qui sont décédés. Et les 4 là, on ne les a pas encore retrouvés. Jusqu'à là, c'est le bilan que nous avons chez les Africains.
Il y a une aide qui s'organise, une aide internationale. Est-ce que vous pensez que les Africains aussi voient cette mobilisation en leur faveur?
Pour les Africains qui sont là-bas, par exemple, il y avait plus ou moins 6 Congolais qui étaient là-bas. Actuellement, nous parlons, on les a déplacés, ils sont dans une autre ville, ils sont maintenant à Konya. Et je pense que l'aide qui est en train de se faire organiser là va aider tout le monde. Et nous aussi, ici, en tant qu'Africains, nous sommes en train de nous organiser aussi. Avant de nous, les Congolais, nous avons une liste, voire même des volontaires qui sont en train d'attendre pour aller aider aussi dans des villes qui sont touchées. Voilà.
Qui est en train d'organiser cette aide du côté des Africains?
Du côté des Africains, nous nous organisons par pays. Et il y a la communauté de l'Union africaine ici. Nous nous organisons, nous envoyons tout à la communauté africaine et la communauté africaine peut parvenir le bien aux comités organisatrices comme AFAD et la mairie.
Vous avez mentionné tout à l'heure avoir essayé de joindre l'Union africaine sans succès, mais que font les ambassades sur place, les ambassades africaines ou les autorités africaines depuis l'Afrique? Est-ce qu'elles essaient de faire quelque chose pour venir en aide aux Africains?
Les autorités africaines, oui, je veux parler pour notre cas. Par exemple, hier, le ministère des Affaires étrangères nous a contactés. Quelques inspecteurs des Affaires étrangères nous ont contactés. Ils ont essayé de prendre des nouvelles des Congolais qui sont ici. Je pense que ça peut être aussi le cas pour les autres pays. Là, je parle pour les Congolais seulement parce que j'ai assisté à l'appel téléphonique, en fait.
Rachidi Makassi, un jeune entrepreneur originaire de la RDC, installé à Istanbul, en Turquie. En RDC, certains politiciens se positionnent pour les élections présidentielles et législatives de décembre. Stéphanie Nbombo, présidente du Cercle des réformateurs intègres du Congo, affiliée à l'UDPS, au pouvoir, se lance dans la course aux législatives avec le défi de réunir 50% de femmes candidates sur la liste du parti. Jointe par Nathalie Bage, elle explique son parcours et sa stratégie de campagne.
J'ai commencé la politique jeune, j'avais 18 ans, j'ai toujours voulu être politicienne. J'ai été membre d'un parti politique, le MLC. J'ai choisi ce parti de Jean-Pierre parce qu'il prônait le libéralisme, l'économie. Mais quand je me suis engagée, j'ai remarqué que le voix des jeunes n'était pas respectée. Les femmes, on les appelait pour distribuer des polos et des nourritures quand il y avait des activités. Alors j'ai laissé le parti et je m'étais dit que je vais créer mon propre parti avec une idéologie, avec un programme, que je vais me battre pour le voir venir.
Vous avez un pourcentage de femmes qui ont adhéré à votre parti?
C'est 30-70 par rapport aux hommes. Les hommes sont plus nombreux. Notre parti est installé dans plus de 17 provinces au Congo. Et je demande à tous les fédéraux d'envoyer des listes de candidats potentiels pour la législative, mais que ce soit 50% des femmes. S'il n'y a pas de femmes, qu'ils recrutent des femmes qui sont connues, qui se démarquent dans les ONG, dans les mouvements associatifs, pour qu'elles soient candidates de notre parti. Dans la liste que notre parti va déposer au Parlement, il y aura 151 femmes. Pour être éligible en tant que parti, le seuil, il faut remettre une liste qui a 60% du nombre de parlementaires exigés. Le nombre de parlementaires au Congo, c'est 500 parlementaires. Donc, pour déposer une liste, il faut payer la caution pour 300 candidats. Alors, moi, j'aimerais que dans ces 300, qu'on ait 150 femmes. Non pas seulement parce que c'est la parité, mais aussi nous aurons un avantage parce que la loi prévoit que si dans une liste électorale, il y a plus de 150 femmes, le parti peut-être sera exempté de payer une caution. Parce que la caution, c'est 1 000 $ par candidat. Je dois payer 300 000 $. Alors, si je mets 150 femmes, je ne vais rien payer. C'est vraiment l'avantage que l'État congolais a mis pour nous, les femmes, pour que nous puissions participer massivement aux élections. Le président des partis politiques n'aligne pas des femmes. C'est pas normal.
On parle beaucoup de ces femmes qui travaillent dans l'informel, qui sont sur les marchés, les petites commerçantes. Comment pouvoir leur permettre de vraiment créer une entreprise qui va dégager un bénéfice?
Je reçois des femmes commerçantes qui vont acheter le poisson salé en Espagne ou au Portugal, qui ramènent ça à Kinshasa, qui sont butées par un problème de douane très élevé aussi. Ça aussi, c'est un problème. La douane au Congo, c'est la plus chère au monde. Et pourquoi on doit avoir les douanes aussi élevées? Nous-mêmes, nous tuons notre propre système d'entrepreneuriat si nous n'allons pas assainir cette problématique des douanes et des systèmes fiscaux.
Des dames qui, en République démocratique du Congo, importent du poisson d'Espagne avec tous les cours d'eau et les lacs qu'on a en RDC.
C'est un manque à gagner énorme. Si nous disons que nous avons le lac Tanganyika chez nous, qui est le lac le plus poissonné au monde, et les poissons meurent de gelée, même si on continue à aller acheter ailleurs. Vraiment, on fait beaucoup d'efforts, notamment pour draguer le fleuve Congo, parce qu'il y a aussi une autre région comme la province de l'Équateur qui a beaucoup de poissons, beaucoup de vivres secs, mais on ne peut pas les acheminer facilement à Kinshasa à cause du fait que le fleuve n'est pas bien dragué. Mais c'est une politique qu'on encourage beaucoup. Par exemple, à la fin de l'année, le président avait donné le mot d'ordre que toutes les institutions publiques qui vont offrir le vivre frais à leurs agents et cadres puissent acheter leurs produits au niveau local. On va y arriver avec un peu de volonté et surtout l'assainissement de milieux des affaires au Congo. Ça permettra vraiment à ce que le Congolais puisse transformer et consommer local.
Stéphanie Mbombo, présidente du parti politique CRIC en RDC.
Abdourahman Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, le discours annuel du président américain au Capitole sur l'état de l'Union. Au rendez-vous du chef de l'exécutif très attendu avec les parlementaires dans un congrès divisé. C'est une allocution durant laquelle Joe Biden s'adressera aux Américains sur les grandes questions de l'heure comme l'inflation, l'immigration, les tensions avec la Chine et la guerre en Ukraine, alors qu'il n'a toujours pas dit s'il va se représenter en 2024 ou pas. Qu'attendre du discours de Joe Biden au Capitole? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com et en rediffusion samedi et dimanche.
Nous terminons cette partie magazine avec du sport et nous parlons de basketball. LeBron James est entré à jamais dans l'histoire de la NBA. Le joueur de Los Angeles Lakers est devenu le meilleur marqueur de l'histoire du basketball américain devant le légendaire Karim Abdul-Jabbar avec 38 390 points inscrits. Il détient maintenant le record individuel le plus prestigieux du basketball mondial. Les détails avec Yakuba Ouedraogo.
Ses bras levés, après avoir battu le record de points en NBA, étaient autant ceux du soulagement que de la gloire. Ce shoot de l'histoire, LeBron James, l'a inscrit en se retournant à la fin du troisième quart-temps contre Oklahoma City. Ce tir a soudainement fait arrêter le match des Los Angeles Lakers, comme le souffle des quelques 20 000 fans dans une Crypto.com Arena en fusion. King James porte ainsi son total de points en carrière à 38 390, soit 3 de plus que le précédent record de Karim Abdul-Jabbar.
Quand ce tir est rentré et le rugissement de la foule, je ne suis pas sûr de pouvoir ressentir à nouveau ce sentiment.
Parmi les témoins de l'histoire, des fortunés ayant payé jusqu'à 24 000 $ le siège, le légendaire Karim Abdul-Jabbar en personne, Magic Johnson, des célébrités comme le rappeur Jay-Z, et le chanteur Usher.
C'est à cela que ressemble l'histoire des Noirs. Nous étions là, nous sommes venus, nous avons vu, il a conquis.
À la question de savoir si King James était venu ce soir du mardi 7 février pour marquer l'histoire, la réponse est sans équivoque.
Eh bien oui, parce que mes garçons partent à Red Eyes demain soir. Et donc oui, j'ai juste eu l'état d'esprit et je me suis habillé pour l'occasion. J'ai mis le bandeau car c'est là que le voyage a commencé et j'aurais dû payer une chambre d'hôtel pour une autre nuit pour les garçons si je ne l'avais pas fait ce soir.
À 38 ans, James ne montre aucun signe de ralentissement au cours de sa 20e saison à NBA. Il affiche une moyenne de plus de 30 points par match et a été sélectionné 19 fois pour les All-Star Games. Il a remporté 4 titres NBA, 4 prix du meilleur joueur de la NBA et 2 médailles d'or olympiques. Même ses propres coéquipiers sont mystifiés. Anthony Davis, attaquant des Lakers.
C'est formidable. Il a joué un rôle important dans le succès de notre équipe, dans mon succès. Il a été un leader dans tous les domaines, sur et en dehors du terrain. C'est vraiment bien mérité. Il a mis beaucoup de sang, de sueur et de larmes dans ce jeu. Je suis donc honoré de pouvoir être le témoin en direct.
Si la grandeur de James sur le terrain est définie par les statistiques, on se souviendra peut-être davantage de lui pour son travail en dehors des parquets. Il a utilisé sa notoriété pour s'exprimer sur le racisme, les droits civiques des Noirs et la brutalité policière et a consacré de l'argent et du temps à un certain nombre de causes caritatives.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Villon à ce micro, à la mise en onde, Josel Morissin. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram. Pour un suivi de l'actualité 24h sur 24, je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.